cours de théologie mystique sur l'Apocalypse par le père Philippe à Rimont le 17 juin 1988.
Je reprends au chapitre 18 l'annonce de la chute de Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel avec un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix puissante, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une demeure de démons et un repère pour tout esprit impur et un repère pour tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. » Donc, on décrit ce qu'est la Babylone en annonçant qu'elle est tombée. Donc, comprenez toujours cette fin de l'Apocalypse comme ce moment du discernement qui se fait entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors, le grand symbolisme de la Babylone, qui est l'opposition, l'antithèse, si vous voulez, de la femme. Et là, on voit bien ce qu'est l'œuvre même, produit de la bête de la terre et de la bête de la mer. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez de chez elle, ô mon peuple. » Vous voyez bien ce discernement qui doit se faire, l'amour de Dieu pour l'homme qui le poursuit jusque-là, malgré cette sorte d'envoûtement qui s'est fait par la bête de la terre et la bête de la mer. Et alors, cet appel, sortez de chez elle, mon peuple. Oui, on pourrait mettre d'Abraham à cet appel. Sors de tout ce qui était comme naturel. Va vers là. Il y a un peu cela ici, comme un nouvel appel, comme un dernier moment d'invocation, l'alpha et l'oméga qui se tiennent. Sortez de chez elle, ô mon peuple, pour ne pas vous associer à ses péchés et pour ne pas recevoir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, comme la tour de Babel. C'est l'orgueil. Jusqu'au ciel. Et Dieu s'est rappelé ses injustices. Payez-la comme elle-même a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Ce jugement très particulier qui fait que tout ce qu'elle a fait de mal va être comme doublé. Autant elle a étalé de gloire et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas le deuil. Ça, c'est l'orgueil. En définitive, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil et l'idolâtrie. C'est ça qui constitue cette Babylone. Voilà pourquoi, en un seul jour, arriveront ces plaies, pestes, et deuil, et famine. Il sera consumé par le feu. parce qu'il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a vu, qui l'a jugé. Ils pleureront et se frapperont la poitrine à son sujet, les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe, lorsqu'ils verront la fumée de son incendie, se tenant au loin par peur de sa torture, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, car en une heure est venu ton jugement. » Ah oui, très nettement, ici aussi, l'amoncellement dans le temps. Les péchés peuvent s'amonceler parce que ça matérialise tout. C'est toujours une matérialisation. Alors, il y a une espèce d'accumulation. Et l'image symbolise la tour de Babel qui atteint le ciel. Vous voyez. La tour de Babel, c'est l'orgueil collectif de l'humanité. Et si on peut dire que c'est un orgueil collectif de l'humanité, qui veut atteindre le ciel, c'est-à-dire qui veut remplacer Dieu. C'est ça le symbolisme. Dieu n'existe plus, puisque par l'accumulation de tout, on atteint le ciel. L'orgueil collectif de l'humanité supprime Dieu. Et c'est net, chapitre 11, donc, de la Genèse, et ici, on retrouve les deux aspects, vous voyez. Si vous regardez les 11 premiers chapitres de la Genèse, vous avez comme la maquette du gouvernement divin par le mal. Et le dernier moment, c'est la tour de Babel. Et le dernier moment, c'est Babylone. Il y a les deux choses qui sont en parallèle. La tour de Babel symbolise de l'orgueil de l'humanité, qui veut s'unifier sans Dieu, qui veut s'unifier par elle-même, dans un orgueil progressif d'amoncellement. Et ici, on voit bien, la Babylone, c'est par la prostitution, qui est une forme d'orgueil. On s'adore soi-même, quoi. On se fait Dieu. Lorsqu'ils verront, elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a fait. Et ils pleureront et se frapperont la poitrine à son sujet. Les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et ont partagé son luxe, lorsqu'ils verront la fumée de son incendie, se tenant au loin, par peur de sa torture, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, car en une heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de lin fin et de pourpre et de soie et d'écarlate et tout bois odorant et tout objet d'ivoire et tout objet de bois très précieux et de bronze et de fer et de marbre et de cannelle et amomes et parfums et essences et encens et vin, et huile, et fleurs de farine, et blé, et bestiaux et brebis, avec des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des personnes humaines, et le capharnaüm de l'humanité, tout y est, tous les manches à balai. On voit très très bien, c'est cette accumulation. Mais je crois que c'est pour montrer que l'orgueil organise tout et fait que tout devient chaos. un monde orgueilleux est un monde qui se matérialise. Et on en accumule. N'importe quoi. Avec des chevaux et des chariots et des esclaves et des personnes humaines. Tout ça. Et on pleure. Qu'est-ce qui pleure? Les marchands de la terre. L'économie. Avec un grand T qui commande tout. Les marchands de la terre. Pleurent et mènent le deuil sur elle. Et les fruits que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi. Et tout ce qu'il y a d'exquis et de splendide est perdu pour toi. Et jamais plus, on ne le retrouvera. Avec cette espèce de chaos, il y a en même temps les fruits que convoitait ton âme. Et au milieu de cette matérialisation généralisée de l'économie qui prend tout, il reste les fruits de la convoitise. Les fruits que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi. Et tout ce qu'il y a d'exquis et de splendide est perdu pour toi. Et jamais plus. C'est assez curieux, cette espèce de contraste entre cette anarchie généralisée, cet amoncellement. Je dis la tour de Babel. On en amasse. Plus il y en a, plus ça vaut. Mais c'est matériel. Et puis, les fruits que convoitait ton âme. Les marchands de tout cela, qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront au loin par peur de sa torture. Quand tout va bien, on est amis. Quand ça ne va plus, on s'éloigne. On a peur d'être englouti dans la même torture. Oui, cette espèce d'opposition de la véritable amitié, de la véritable alliance. Et les marchands de tout cela, qui s'étaient enrichis par elle, se tiendront au loin, par peur de sa torture, pleurant et menant le deuil, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville !» Oui, c'est une liturgie étonnante, hein. Ça fait penser à certains tableaux. On voit très bien cette liturgie de la Babylone qui s'étruit. Quelqu'un qui a un petit peu d'art, montrer ça, c'est follement. En un instant. Vous voyez, toute l'œuvre du démon, c'est de la façade. C'est un jeu de cartes. C'est une façade. Tous les liens que fait le démon, c'est de la façade. C'est économique. On s'aime pour l'argent. Et on ne s'aime que pour ça. Donc, c'est artificiel, au sens propre. C'est le grand artificiel. C'est extraordinaire comme... C'est étonnant, vous voyez, quand on voit ça, cette manière de décrire la Babylone. Il faudrait regarder ça au point de vue du structuralisme et cet amoncellement. Il n'y a rien, puis en un instant, ça coule. Je crois que c'est vraiment ça, l'œuvre du démon. Ça paraît, ça séduit. C'est énorme. Ça peut être exquis. Oui, les deux grandes caricatures. La caricature de ce qui est exquis, du fruit exquis, ce que tu convoites, ce que ton âme convoite, et puis l'amoncellement, tout ça en un instant est détruit. Malheur, malheur, la grande ville. Elle était vêtue de lin fin, et de pourpre, et d'écarlate, et tout d'or et d'or, et de pierres précieuses, et de perles, et en une heure, elle a été dévastée, et en une heure, a été dévastée, tant de richesses. Vanôme, tout ça est vain. Oui, c'est ça la Babylone. C'est ça l'œuvre du démon. Mais quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, c'est un peu ça. En un instant, tout ça sera mis à nu. Regarde rien. dire au loin. Et il criait, en regardant la fumée de son incendie, qui était semblable à la grande ville. Il y a un lyrisme étonnant là-dedans. C'est extraordinaire. C'est puissant comme... Il criait en regardant la fumée de son incendie, qui était semblable à la grande ville. Ils lancèrent de la terre sur leur tête. Ils criaient, pleurant, menant le deuil. Malheur, malheur, la grande ville, où de son opulence s'étaient enrichis tous ceux qui ont des bateaux sur la mer. Et en une heure, toujours cette espèce de contraste, cet entassement par le temps, c'est quantitatif, l'aspect quantitatif, on comprend très bien ce que c'est que la quantité. Il faut du temps pour devenir opulent de graisse. Ouais, très bien. Cette opulence extraordinaire, avec le plus de choses possible, hein, quand on dit cette manière extraordinaire de voir ce qu'elle est. Et en une heure, elle a été dévastée. Exulte à son sujet, ciel et vous, les saints, et les apôtres, et les prophètes. Car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Oui. C'est vraiment juger au sens propre. Hein. Séparer ce qui est substantiel, nécessaire, et tout l'accidentel, l'artificiel, qui s'est accumulé. Le démon n'est pas créateur, c'est un tissu de relations. Pas autre chose que ça. Et ça ne peut être que ça. Alors on en ajoute, on en ajoute. Et un ange vigoureux prit une pierre comme une grande. Oui, c'est ça qui est très beau, parce que c'est toujours dans l'Apocalypse, hein, il y a le geste et la parole qui se disent pour qu'on comprenne. On comprenne ce que c'est que le jugement de Dieu. Subitement, c'est une lumière qui se fait, alors qu'avant, les gens ne voient pas. Le démon, c'est le prince de la confusion. Donc c'est de faire croire que ce qui est substantiel et nécessaire, c'est la même chose que l'accidentel. Confondre tout. C'est la confusion la plus abominable qui soit. Confusion. Confusion psychologique. Confusion économique. Confusion artistique. On confond tout. Et un ange vigoureux prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi, d'un coup, sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on ne la retrouvera. La meule, hein, le symbolisme de la meule qui tombe dans la mer, hein, pas l'oublier. Ça revient constamment, ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce symbolisme ? C'est, je crois, le poids de la meule, la rapidité avec laquelle ça tombe, puis ça disparaît, et la nécessité. C'est ça qui est appliqué dans ce symbolisme. Cette nécessité, cette précipitation. Ainsi d'un coup sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on la trouvera. Et la voix des sitaristes, et des musiciens, et des flûtistes, et des trompettistes, jamais plus on entendra chez toi. Et aucun artisan, et aucun art, jamais plus, ne se trouvera chez toi. Et le chant de la meule, jamais plus, ne s'entendra chez toi. Ça, le chant de la meule, c'est très beau. Et la lumière de la lampe, jamais plus, ne brillera chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épousée, jamais plus, ne s'entendra chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, et que chez elles, on a trouvé le sang de prophètes et de saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Vous avez remarqué, hein, que notre pape, c'est le pape des martyrs. Hein, il les récolte tous. Et les miséricordieux. Significatif, ça. C'est des gestes prophétiques du pape, ça. Il annonce. C'est très curieux, ça. Il y a comme une espèce de... Et là, on retrouve ça ici, vous voyez. Ça qui est assez extraordinaire. Et que chez elle, on a trouvé le sang de prophètes et de saints. De tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et le témoignage de martyr qui reprend soudainement cette force et qui, en face de ces marchands du primat de l'économie, hein, c'est ça, l'entassement de richesses, tout ça disparaît en face du témoignage de martyr, de la grandeur. Apparemment sont les vaincus et qui soudainement réapparaissent. Les vraies valeurs et les fausses. C'est le discernement de ça. Le discernement, ce qui est de Dieu et qui est éternel et ce qui est uniquement dans le temps, avec l'accumulation. Donc, vous voyez, tout un chapitre, hein, c'est très étonnant, c'est purement descriptif, hein. C'est symbolique, on voit très bien, mais c'est puissant comme effet, hein. C'est très puissant comme pour montrer où joue le démon. Le démon joue dans l'accumulation des richesses et marchands de la terre et de la mer. C'est là. Mais quand vous pensez ce que disait Platon sur les marchands, c'est intéressant. Avez-vous vu un petit peu juste? C'est très dangereux quand les marchands deviennent ceux qui dominent. Parce qu'il n'y a pas de limite. On en accumule, C'est sans fin. Quand l'argent commence à faire des petits, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite. Parce qu'il n'y a plus rien de naturel. Quand l'artificiel l'emporte sur le naturel, il n'y a plus de limite. Et c'est là-dedans que s'installe le démon. Le démon, c'est ça. Là, il est à l'aise. Comme dans les petits cochons. Il est à l'aise, là. C'est la soie artificielle aussi. Alors là, il est tout à fait à l'aise. Il veut tout ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il fait. Hein. Un tissu extraordinaire au plan économique. Donc c'est très intéressant, vous voyez, de voir ça, parce que ça fait comprendre où se situe la sainteté et où, au contraire, on est en face du pur artificiel, un jeu, le jeu logique, dialectique, plus aucune contemplation. Mais dans tous les domaines, c'est le marchand qui domine. Même la philosophie est devenue un produit économique de marchandage, de jeu. Il n'y a plus de contemplation. Parce que la contemplation, il faut accepter que quelque chose n'est pas fait par nous. Et c'est ça, c'est là où on trouve le roc. C'est là où on trouve Dieu. Si Dieu sait ce que nous faisons, voyez, Dieu entre dans le jeu. Il rentre dans le relatif que nous faisons. Et là, on a ce tissu absolu. C'est pour ça que, vous savez, au plan tradition religieuse, j'allais dire que chapitre 18, il est assez extraordinaire pour voir le jeu démoniaque, ou les jeux démoniaques, parce qu'ils sont pas, ils sont dans la multiplicité, et la manière dont ça se répète indéfiniment. Et alors, tout se termine, vous voyez bien, et que chez elle, on a trouvé le sang de prophètes et de saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ça, très, très... Il n'y a que ça qu'on... Vous voyez, la seule chose, c'est l'or. L'or divin, c'est le sang des martyrs. Ça reste. Ça n'a pas été atteint, ça n'a pas été touché. C'est la seule chose qui demeure. Et alors, vous voyez bien comment ce genre de sorcellerie, de jeu démoniaque, parce que la sorcellerie c'est un jeu démoniaque, qui est l'antithèse des sacrements. On fait des gestes et on veut qu'ils soient efficaces. L'autre jour, à la télévision, on montrait comment on peut. Je ne l'ai pas vu. Je suis arrivé juste après. Et quelqu'un l'a vu, il m'a raconté. À la télévision, on montrait comment on peut aujourd'hui jouer à la sorcellerie en se servant de poupée. Et de voir l'efficacité. La sorcellerie, hein, c'est l'antithèse démoniaque des sacrements. Les sacrements signifient, réalisent ce qu'ils signifient. Et on veut que ce jeu de sorcellerie, de magie, on ne sait pas jusqu'où ça va, comme alliance avec le démon, ça peut aller assez loin. Fait que, à distance, on attaque. Alors, on voit bien ces deux aspects. Alors, ce qui est aussi très fort, hein, vous voyez bien, ainsi d'un coup sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on la retrouvera, donc, le geste de la grande meule jetée dans la mer. Voilà ce qu'est Babylone. Au regard de la sagesse de Dieu. Et alors, on voit tout de suite que ce jeu démoniaque fait que tout ce qui peut rester d'humain est complètement enveloppé, enfoui. Tout ce qui peut rester d'humain, la voix des guitaristes, des musiciens, des flûtistes, jamais plus ne s'entendra chez toi. Aucun artisan, ça c'est humain, aucun artisan d'aucun art, jamais plus ne se trouvera chez toi. Et le chant de la meule, c'est encore une chose humaine. Jamais plus ne s'entendra chez toi. Et la lumière de la lampe, jamais plus ne brillera chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épousée, ce qu'il y a de plus humain, jamais plus ne s'entendra chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Oui, l'étouffement. L'étouffement de tout ce qui est d'humain. Tout ce qui relève de la nature humaine, de tout ce qui est vrai, quoi, tout simplement, tout ce qui est authentique, complètement inhibé, jamais plus. Parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, c'est la sorcellerie. Et que chez elle, on a trouvé le sang des prophètes. Alors voilà ce qui reste. Après cela, j'entendis comme une voix forte de foule nombreuse dans le ciel, qui disait Alléluia, le salut et la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car véridique et juste ses jugements, car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa prostitution et l'a vengé le sang. Et une seconde fois, ils dirent Alléluia. Et sa fumée monte pour les éternités d'éternité. Alors évidemment, il faut faire attention. Il faut bien comprendre. C'est pas le Dieu vengeur. Ça pourrait se comprendre comme ça. C'est pas Dieu qui se venge. C'est évident. C'est comme quand on dit que Dieu est jaloux. Comprendre le symbolisme qui est là pour nous faire comprendre l'action si forte de Dieu, si puissante, et sa fumée monte pour les éternités d'éternité. Et les 24 vieillards et les 4 vivants tombèrent et se prosternèrent devant le Dieu qui est assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et d'auprès du trône sortit une voix qui disait Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, les petits et les grands. Toujours ce contraste, hein. Contraste net de l'Apocalypse. Les ténèbres, l'enfouissement des ténèbres, tout ça rejeté comme la meule qu'on jette dans l'océan. Du ciel, alors, cette voix forte de foule immense dans le ciel, c'est la voix, c'est la liturgie contemplative, oui, la liturgie démoniaque et l'autre liturgie contemplative. Alléluia, le salut et la gloire et la puissance de notre Dieu, car véridique et juste ses jugements. Alors vous retrouvez successivement tous les niveaux. Les 24 vieillards et les 4 vivants tombèrent et se prosternèrent devant le Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et j'entendis comme une voix de foule nombreuse, comme une voix de grandes eaux et comme une voix de puissante tonnerre. Qui disait Alléluia, car il est entré dans son règne, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et exultons, donnons-lui la gloire, car elle est venue, la noce de l'agneau, et son épouse s'est apprêtée. Il lui a été donné de se vêtir de lin fin, splendide et pur. Et ce lin fin, ce sont les œuvres de justice des saints et le tissu. Et ce lin fin, ce sont les œuvres de justice des saints, les œuvres de justice et l'adoration, en premier lieu. Que la justice à l'égard de Dieu, c'est l'adoration. Et toutes les autres œuvres. Il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au repas de noces de l'agneau. Vous voyez, juste avant la communion. Heureux ceux qui sont appelés au repas de noces de l'agneau. Il me dit, ce sont les paroles véridiques de Dieu. Et je tombai à ses pieds. Pour me prosterner devant lui. Il me dit, garde ton bien. Je suis un esclave comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Devant Dieu, prosterne-toi. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit. l'esprit de la prophétie. Ça, il faut être très bien comprendre ça, oui, ce que je sais, le sacerdoce prophétique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de prophétie? C'est le témoignage de Jésus. C'est la lumière. Serré pour en frapper les nations. La parole de Dieu. Jésus-Christ qui juge en dernier lieu. Celui qui juge, c'est celui qui foule la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Vous voyez la différence entre la Babylone et la cuve de la fureur de Dieu. La Babylone, elle tombe, c'est l'œuvre du démon. Tandis que les hommes sont rachetés par le Christ. Ils ont besoin d'être purifiés. C'est pour ça que c'est exprimé de cette manière-là. Ils ont besoin d'être purifiés. C'est la purification du cœur de l'homme, ça. Le vin. Et dans le cœur de l'homme, il a besoin de cette purification. C'est lui qui fout la cuve du vin, de la fureur, de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est à l'égard de tout ce qui en nous est complicité mensongère. C'est le mensonge. C'est ça qui met Dieu le plus en colère, c'est le mensonge. Parce que le mensonge amasse orgueil. Le mensonge qui veut qu'on s'exalte au-dessus de tout. Et je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith. Je crois que c'est Marie, ça. Parce que comment voulez-vous un ange debout dans le soleil? C'est la femme. Debout dans le soleil. Elle n'a pas encore vu ça. Un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith. Tous les oiseaux qui volent au zénith, c'est les contemplatifs. À tous les oiseaux qui volent au zénith, voyez ça. Venez, rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu, pour manger chair de roi et chair de capitaine et chair de puissant et chair de chevaux et de ceux qui les montent. Et chair de tout homme, libre et esclave, et petit et grand. C'est extraordinaire. Elle symbolise l'Eucharistie, qui est exprimée là de la manière, la réalité dernière, son repas. C'est Marie qui invite son repas, tous les oiseaux qui volent au zénith. C'est une espèce d'action de grâce, merveilleuse. Étonnante. Rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu. C'est la grande action de grâce. Pour manger chair de roi et chair de capitaine. C'est merveilleux, l'unité. Exprimée de cette manière d'un réalisme étonnant. Et je vis la